Appel d'air, Céline, sur Radio Grand Ciel. Bonjour et bienvenue dans Appel d'air. Chers auditeurs, une petite question pour commencer. Vous rappelez-vous, quelle est la dernière lettre que vous avez reçue ? Une vraie lettre, je veux dire, hein, une lettre écrite à la main par une de vos connaissances. C'est une habitude qu'on a presque perdue. Aujourd'hui, dans Appel d'air, on va s'écrire, s'envoyer des lettres pour évoquer des sujets très variés, vous le verrez. Malheureusement, parfois, les courriers n'arrivent pas au destinataire. Dans ce cas, il est retourné à l'envoyeur, comme le chantait Elvis en 1962 avec « Return to Sender ».
I gave a letter to the postman. He put it in his sack. Bright and early next morning, he brought my letter back. She wrote upon it, return to sender, address unknown. No such number, no such zone. Dropped it in the mailbox as any special deed. Bright and early next morning, it came right back to me. She wrote upon it, return to sender, address unknown. No such person, no such zone. This time I'm gonna take it myself and put it right in her hand. And if it comes back the very next day, then I'll understand.
We're writing on it,
return to sender, address unknown. No such number, no such zone.
"84 Charing Cross Road", c'est un livre un peu particulier, ça n'est pas un roman, mais une vraie correspondance qui a duré 20 ans, de 1949 à 1969. Une correspondance entre l'écrivain américain Helen Humph et le personnel de la librairie anglaise Marks & Co, située à Londres, au 84 Charing Cross Road. En 1949, Helen Humph a du mal à gagner sa vie comme écrivain et elle se met à l'écriture de scénarios pour la télé. C'est une grande lectrice, elle cherche à acheter des livres d'occasion, des livres anciens même, mais à un prix raisonnable vu ses finances. Or, aux États-Unis à cette époque, à New York, là où elle vit, elle ne trouve rien d'abordable. Elle tombe sur une petite annonce dans un journal pour une librairie anglaise spécialisée dans la vente de livres épuisés et anciens. C'est ainsi qu'elle passe sa première commande par lettre, et c'est Frank Doyle, un employé de la librairie londonienne, qui lui répond. Helen va devenir une cliente fidèle pendant 20 ans. Elle continuera de commander toutes ces années car Franck se décarcasse. Il arrive à lui trouver presque tout ce qu'elle cherche, essentiellement des classiques de la littérature anglaise et américaine. Et cela n'est pas forcément excessif pour notre écrivain. En tout cas, au début, il faut dire qu'au moment de ses premières commandes, on est en pleine après-guerre. Et acheter en livres sterling lui revient moins cher que d'acheter en dollars. Comme elle le dit, Londres est bien plus près de mon bureau que la 17e rue. Cette correspondance avec la librairie, elle va durer toutes ces années. Pas seulement parce que c'est une fidèle cliente, mais aussi parce que Helen va nouer un lien avec toute l'équipe du magasin. Dès la première année, elle prend l'initiative d'envoyer au moment des fêtes un colis pour tout le personnel. C'était d'ailleurs un jambon au début qui va être apprécié par tout le monde, surtout dans cette période d'après-guerre où l'Angleterre était encore sous rationnement. Mais surtout, ce que tous apprécient dans la librairie anglaise, c'est le contenu des lettres d'Hélène, son style et son humour qu'on découvre dès le deuxième courrier. Elle peut parfois adopter un ton un peu piquant, un peu mordant quand elle n'a pas de réponse assez rapide ou quand elle est déçue par un livre envoyé par Franck. Elle aime bien l'asticoter ou l'enguirlander comme elle le dit. Les lettres d'Hélène contrastent avec celles de Franck qui lui s'exprime de façon beaucoup plus formelle, presque guindée même au début. Dans ce livre, on découvre aussi certaines lettres envoyées par d'autres employés de la librairie, qui d'ailleurs écrivent un petit peu en cachette de Franck au début. Et il y a aussi quelques lettres des amis d'Hélène qui s'intercalent, car ils se sont rendus à Londres et lui décrivent la librairie. Hélène Hanf n'avait pas les moyens de voyager et pendant très longtemps n'a pas pu se rendre en Angleterre. Si la correspondance a duré jusqu'en 1969, le livre au final n'est pas non plus un gros pavé, je vous rassure. Les 20 années d'échange défilent assez rapidement, puisqu'il y a des intervalles parfois assez longs entre certains courriers. Cette correspondance a finalement été éditée aux États-Unis en 1970. Elle a rencontré un succès phénoménal et a par la suite été adaptée au théâtre. Ce que la romancière trouvait assez ironique, elle qui a écrit des pièces de théâtre sans succès pendant des années. Le livre a aussi été publié en Grande-Bretagne en 1971. Là encore, il a connu un immense succès. Et en 1987, il y a même eu une adaptation en film avec Anne Bancroft et Anthony Hopkins. 84 Charing Cross Road, c'est une correspondance authentique et savoureuse, publiée en France en 2001 aux éditions Autrement.
of me. She's thinking of me. She's thinking of me.
Les facteurs, on peut les supplier d'apporter la lettre tant attendue, comme le faisaient les Marvelettes avec leur chanson « Please, Mr. Postman ». Et quand la lettre est là, on le remercie, comme Bobby King qui vient de le faire à l'instant avec sa chanson « Thanks, Mr. Postman ». Nous partons justement maintenant à la rencontre d'un facteur au Québec avec le titre « Le facteur émotif » de Denis Thériault. C'est l'histoire d'un jeune facteur de 27 ans qui s'appelle Bilodeau. Bilodeau n'a pas de famille, il a un seul ami, Robert, qui est aussi un de ses collègues. Il est plutôt solitaire, mais cela lui convient, et il a une passion pour la calligraphie qu'il aime exercer après ses heures de travail. Surtout, Bilodeau aime son métier, mais il a un plaisir inavouable pour un facteur, un vice secret, comme l'écrit l'auteur. Il aime lire certaines des lettres avant de les déposer dans les ouates. La majorité des courriers aujourd'hui sont des courriers administratifs ou des publicités. Les lettres qui intéressent Bilodeau, ce sont les correspondances personnelles. Il les emporte le soir pour les lire chez lui, les recopier, avant de les déposer au destinataire le lendemain. Forcément, il n'a qu'une partie de ces échanges de lettres. Il doit imaginer ce que le destinataire des courriers qu'il dépose répond à chaque fois, mais il aime suivre ses échanges, un peu comme un feuilleton. Il suit ainsi environ 30 correspondances et cela fait 2 ans que ça dure. Parmi ces correspondances, il y en a une en particulier qui a retenu son attention. C'est un échange entre le dénommé Gaston Grandpré, qui habite dans sa ville, et une jeune Guadeloupéenne qui s'appelle Ségolène. En fait, les deux ont une correspondance qui sort de l'ordinaire. Ils s'écrivent non pas des lettres, mais des haïkus, ces courts poèmes japonais qui comportent 3 vers. Malgré ces courriers hors normes, qui ne lui apprennent pas grand-chose au fond sur Ségolène, notre facteur est tombé amoureux de la jeune femme. Il est fasciné par son écriture, et en plus, il sait qu'elle est belle, car un jour, il a vu passer une photo d'elle. Malheureusement, cet échange entre Ségolène et Gaston Grandpré est voué à s'arrêter le jour où celui-ci est victime d'un accident de la route. Ne plus lire les haïkus de la jeune femme est impensable pour Bilodeau qui va trouver le moyen de continuer l'échange. Une seule solution, écrire à la place de Gaston Grandpré. Se mettre à écrire des haïkus du jour au lendemain quand on n'y connaît rien semble un peu compliqué. Il va donc se documenter de façon intensive sur les haïkus pour comprendre comment les écrire. Il va se plonger dans la culture japonaise. Se mettre à écouter de la musique japonaise, il va même manger des sushis, mais en cachette de bile, son poisson rouge. Reste un autre problème à surmonter, il faut écrire comme Gaston Grandpré, imiter son écriture pour commencer, ce qui est plutôt facile pour notre facteur adepte de calligraphie, mais il faut aussi imiter le style de Grandpré, écrire des haïkus qui auraient pu être écrits par lui. Notre facteur va trouver le moyen de se glisser dans la peau de Grandpré, je vous laisse découvrir comment. Ségolène va-t-elle découvrir la supercherie? Combien de temps Bilodeau va-t-il garder son secret, surtout avec son ami Robert qui rôde et qui est plutôt du genre indélicat? Le facteur émotif, c'est un roman assez court, un roman drôle, bien rythmé, on se laisse prendre au jeu et on pense deviner la fin assez facilement, mais l'auteur est malin et nous réserve une surprise. C'est un roman publié aux éditions Anne Carrière. Certaines lettres qu'on reçoit peuvent nous faire passer à l'action. Par exemple, nous pousser à prendre le premier avion, comme le chantait le groupe The Box Tops en 1967 avec leur chanson très connue The Letter.
Give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a going home. My baby just wrote me a letter. I don't care how much money I gotta spend. Got to get back to my baby again. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. Well, she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more. Anyway, yeah, give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter.
When she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more? Anyway, yeah, get a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. Oh, my baby, just don't put me a letter. Oh, my baby, just don't put me a letter.
Le groupe Shocking Blue avec leur titre Send Me a Postcard, une chanson de 1970. Nous avions un pied au Japon tout à l'heure avec le roman Le Facteur émotif. Cette fois, on va mettre les deux pieds au Japon avec la papeterie Tsubaki de Ito Ogawa. La narratrice est une jeune femme de 25 ans qui s'appelle Atoko et qui vit à Kamakura, au sud de Tokyo. Elle a repris, après le décès de sa grand-mère, la papeterie qu'elle tenait. Il ne s'agit pas de n'importe quelle papeterie, car sa grand-mère proposait aussi ses services comme écrivain public. Dans la famille, on est écrivain public de génération en génération. Atoko va donc prendre la relève. Elle ne connaît ni sa mère ni son père, c'est sa grand-mère qui l'a élevée seule, mais elle pouvait parfois être assez sévère, si bien qu'à l'adolescence, la jeune femme s'est rebellée et a coupé les ponts. Elle n'a jamais revu sa grand-mère jusqu'à sa mort. Après être revenue de l'étranger, Atoko a donc accepté cet héritage, elle reprend la papeterie. Être écrivain public, c'est écrire à la place des clients, trouver les mots justes pour écrire le courrier adapté à quelqu'un qu'on ne connaît pas, en fonction des informations délivrées par les clients. Atoko est douée pour ce métier et elle a aussi un talent pour l'écriture, pour la calligraphie qu'elle a appris avec sa grand-mère dès l'âge de 6 ans. Le système d'écriture japonais mélange plusieurs types de caractères, les hiragana, les katakana et aussi les kanji. Atoko les maîtrise tous avec talent. Atoko prend son métier très au sérieux. Elle porte le plus grand soin aux lettres qu'elle écrit. Cela va jusqu'au choix du crayon, au choix du type d'encre, le choix du papier, de l'enveloppe aussi. Tout est pensé, même l'écriture de l'adresse, ce que sa grand-mère appelait le visage d'une lettre, et le choix du timbre aussi est important. Elle fait face à des demandes très variées, des lettres de remerciement, de félicitations, des vœux pour le nouvel an, mais aussi des vœux pour l'été, puisqu'on se souhaite des vœux l'été au Japon. Elle est également confrontée parfois à des demandes plus surprenantes, un faire-part de divorce, une lettre à écrire à un ancien amour ou une lettre pour refuser de prêter de l'argent à une connaissance. Elle accepte toutes ces requêtes avec sérieux. La jeune femme est assez solitaire, elle ne connaît pas beaucoup de monde à Kamakura depuis son retour, à part sa voisine, Madame Barbara, dont elle est assez proche. Son métier va l'amener à rencontrer des personnes différentes, à se faire des amis de tous les âges, vous le verrez. Ce roman nous invite à suivre la jeune femme au cours d'une année complète, au fil des saisons, c'est elle la narratrice. Dans le livre, on découvre aussi la vie à Kamakura, on découvre la culture japonaise, les traditions selon les moments de l'année, par exemple le pèlerinage dans les sanctuaires, les traditions comme le hamami, c'est-à-dire la contemplation des cerisiers en fleurs au printemps. La cuisine aussi a son importance, car Atoko aime manger au restaurant presque un jour sur deux. La papeterie de Tsubaki, c'est un roman doux, un roman joyeux, drôle parfois, notamment lorsqu'elle est confrontée à des demandes de clients très surprenantes. Ce roman aussi présente une petite originalité. Vous trouverez les lettres écrites par Atoko reproduites dans le livre. Et vous pourrez, si cela vous a plu, poursuivre les aventures d'Atoko et de tous les autres personnages découverts dans ce roman avec un autre roman qui s'intitule La République du Bonheur, lui aussi publié aux éditions Piquet. Nous allons nous quitter en musique. Les lettres évoquées dans les chansons sont 9 fois sur 10 des lettres d'amour et le groupe Metronomy ne déroge pas à la règle avec son titre Love Letters que nous allons écouter tout de suite. Je vous remercie d'avoir écouté Appel d'air et je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission.
Bye. my love to you. Remember that I'll always be in love with you. Treasure these few words till we're together. Keep all my love forever. P.S. I love you. I love you.